Alors, je suis très heureux d'être parmi vous à Brassy. Alors, j'ai mis ma plus belle cravate de brasseur. Donc, je sais qu'il y a une photographe qui a reluqué déjà ma cravate Made in Belgium. Bon, alors, je suis très heureux d'être brasseur de la bière de l'abbaye du Jouir. Et j'ai préparé donc un diaporama qui s'intitule « La bière, lubrifiant social universel ». Je voudrais essayer de vous montrer combien cette boisson est répandue dans le monde entier depuis des millénaires. Bon, alors, je commence d'abord par du corporatisme. Donc, Cervesaris Felicitaire, vive les cervoisiers, donc vive les brasseurs, donc vive nous. Alors, je vous rappelle qu'au niveau boisson, l'organisme humain a besoin de 3 litres d'eau par jour. 1 litre et demi est lié à l'alimentation. Une carotte comporte 80% d'eau et 1 litre et demi est en boisson. Et les nutritionnistes classent les boissons en différentes catégories. Donc, la bière se trouve être rafraîchissante, nourrissante et euphorisante. C'est ça qui est intéressant, bien évidemment. Donc, on va essayer de voir ce que c'est d'abord et un petit peu d'histoire. Donc, si la bière m'était comptée. Donc, je vais essayer de vous raconter une histoire millénaire. Alors, d'abord, on va parler de quoi? Alors, vous voyez, là, il y a un mot exotique qui s'appelle les dolos. Donc, quand je parle de bière, tout le monde pense à votre bière blonde, magnifique, filtrée, bien servie, etc. Le mot dolo est un mot qui évoque les bières que j'appelle autochtones. Donc, voyons ces définitions. Alors, j'ai pris des définitions chez un ethnologue, donc, qui dit quelque chose d'important. Le vin, un don de Dieu. Donc, vous prenez un jus de fruits, le raisin, par exemple, ou pourquoi pas le jus d'un palmier, et on obtient un vin. Donc, don de Dieu, il faut reconnaître que le vin a bénéficié d'un agent commercial super performant avec Jésus-Christ vous racontant des histoires. Après, donc, on va mettre vin et on va dire catholicisme, etc. Alors que la bière, on va dire, la bière résulte du travail de l'homme. Donc là, ça devient déjà un petit peu moins drôle et on va rattacher la bière au côté luthérien. Donc, il y a du boulot, il y a une certaine austérité. Alors, en ce qui concerne le dolo est un terme du Burkina Faso qui correspond à la bière autochtone fabriquée à partir de leur céréales, qui est donc une bière de sorgho. Donc, en ce qui me concerne, quand je parlerai de bière, j'évoquerai le nom générique, aussi bien votre Kronenbourg que le dolo de mes copains du Burkina Faso. Alors, il est évident qu'on va avoir d'autres définitions que vous connaissez plus ou moins. Donc, bière Pils, le mot Pils vient d'une ville de Tchéquie, Pilsen, qui correspond à votre bière blonde, on va dire occidentale, de fermentation basse, on pourra y revenir. On a une bière anglaise qui est, pour le cruciverbiste pratique, l'ale, qui, elle, est une bière différentes. On a la Stout, qui est une bière noire, brune, charpentée, etc. La Guinness en est là. Donc, j'ai rajouté une définition personnelle concernant le Coca-Cola. Donc, boisson du diable, génératrice de dollars. Donc, il y a quelques... Donc, je suis content que mon syndicat contre le Coca-Cola puisse se fortifier. Je vous signale que nous sommes de Montpellier, enfin on est des exotiques de Montpellier. Il y a eu un député en 1951 qui a voulu supprimer le Coca-Cola du côté de Béziers, mais ça n'a pas marché. Alors, en ce qui concerne bien sûr les définitions, dès qu'il y a une activité humaine, bien sûr le législateur va s'en préoccuper, tout simplement pour percevoir quelques impôts. Alors, actuellement, on parle toujours de qualité, qualité totale. Enfin, on en fait tout un délayage depuis pas mal d'années. Or, il est évident que très tôt, on s'est préoccupé de la qualité de ce produit. Alors, les règles de qualité qui remontent au plus haut, c'est la civilisation babylonienne, Donc là, il y a un code d'Hammurabi. Enfin, tous les historiens vous en parleront. Donc là, c'est simple. La brasseuse qui faisait mal son boulot, on l'a noyée. Donc ça supprimait quand même pas mal de trucs. Hein. Alors après, il est évident qu'on va avoir des législations. Donc le mot goudal, donc vous voyez, les ch'tis là, d'Arras, ont retrouvé le mot good hell, hein, etc. Alors, il y a une loi qui nous embête depuis pas mal de temps, qui est de 1516. C'est la loi de pureté de Bavière, qui implique que la bière soit fabriquée uniquement avec du malt d'orge, du houblon et de l'eau. Et cette loi a été utilisée par les Allemands pour interdire les exportations de bière sur le sol allemand. Et il y a eu un conflit très important mené par un Alsacien, hein, Théophile de Bus, pour savoir si cette loi était encore valable dans le cadre du traité de Rome. Donc, si vous voulez, et en définitive, ça a duré 10 ans de procédure pour arriver à la conclusion que cette loi de 1516 n'était pas applicable dans le cadre du traité de Rome. Alors, c'était un petit peu symbolique, mais c'est pour vous montrer que monter l'Europe tous ensemble, c'est pas simple dès lors qu'on va toucher sur des produits à forte connotation culturelle. Hein. Pourquoi vous, Morvandio, vous allez embêter le brave Danois qui fait ses harenceurs dans un fût de chêne, alors que les technocrates de Bruxelles ont décidé qu'il fallait que ce soit en plastique. Hein. Bon, donc, alors, il y a un décret. Alors, en ce qui concerne la France, les lois ont évolué en fonction des années, mais en fonction de la production de céréales. En cas de disette, il était interdit de brasser. Les céréales étaient réservées au pain. Et en ce qui concerne ces lois, ça a varié au cours des temps. On peut faire de la bière légalement en France avec, bien sûr, du malt d'orge, qui est la matière essentielle, mais on peut utiliser éventuellement des produits de remplacement qu'on appelle des succédanés, du riz ou du maïs, etc. Alors, il y a une loi qui est importante, qui a changé à l'échelle de l'histoire très récemment. C'est le décret du 31 mars 92 qui a permis l'aromatisation des bières, d'où l'apparition de tous les produits très captifs pour les jeunes. Je pense à la Desesperados, où on mélange on ne sait pas trop quoi. Alors, on dit que c'est de la tequila, mais ça, je vous en reparlerai. Hein. Donc, en ce qui concerne la loi française, donc on a, on va dire, une nouvelle loi, hein, 92. Alors, autre classification, donc bien sûr, la couleur des bières, etc. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise. La couleur est toujours parfaitement naturelle. Hein. C'est-à-dire que on va griller plus ou moins le grain. Il suffit de chauffer un peu plus le grain de malt pour avoir toutes les couleurs. Alors, faites attention, hein, il y a des fausses blondes en France, des femmes fausses blondes, mais on a aussi des fausses brunes dans la bière. Hein. Vous prenez une brune et vous mettez du caramel, hein, en faisant chauffer du sucre, et vous obtenez une fausse brune. Hein. Bon, donc méfiez-vous des falsifications. Alors, quand je parle de boisson universelle, c'est bien pour montrer que dans le monde entier, on va boire de la bière, en dehors de quelques pays, évidemment, où la charia règne. Donc, en ce qui concerne les brasseries les plus extrêmes, on en a au-delà du cercle polaire, à Tromsø, hein, en Norvège, et à Ushuaïa. Le reste du monde est truffé de brasseries. Alors, les symboles sont évidemment l'ours Mac et puis Ushuaïa, bien sûr, à sa brasserie. Par contre, là, on parle des brasseries dûment référencées qui payent dûment leurs impôts. À côté de ça, il y a évidemment toute une série de productions que j'appelle autochtones. Alors, en ce qui concerne les boissons dans le monde, faut faire très attention. Nous, les Français, sommes bipolaires, bière et vin, mais il faut savoir qu'en France, enfin dans le monde, il y a 1 milliard 600 millions d'hectolitres. Alors vous imaginez, hein, c'est 100 litres, hein, un peu le nombre de... Alors ça veut dire que c'est 5 fois plus quand même que le vin. Hein. Donc 1 milliard 600 millions d'hectolitres, vous mettez ça dans un coin de vos neurones, ça vous permettra de lubrifier de temps en temps votre cerveau, en définitive. Hein. Alors, quelque chose qui monte énormément, bien sûr, c'est les eaux embouteillées. Hein. Là, c'est important. Alors, ça, je passe rapidement pour vous dire que, globalement, la production dans les vieux pays comme l'Europe ou les États-Unis est relativement stagnante. Ce qui monte, c'est évidemment en Asie. Hein. Il est bien évident que dès lors qu'un Chinois boit un litre de plus par an, ça augmente la production. Alors que chez nous, c'est assez stable. Hein. Alors, la carte des buveurs de bière, donc, bien sûr, on va citer des chiffres. Alors, les statistiques, comme je raconte à mes élèves, c'est un peu bizarre. Hein. C'est comme les mini-jupes, hein. Ça cache l'essentiel, mais ça donne des idées. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, on a la consommation par an et par tête d'habitant. Mais j'ai jamais su si les bébés de 3 mois étaient comptabilisés par tête d'habitant, parce qu'on arrive quand même à des scores assez sympathiques. Hein. Donc là, si on lit bien, on doit avoir des Tchèques qui, bon an, mal an, boivent 160 litres par an. Hein. Alors, il est évident qu'on va retrouver les Irlandais qui sont pas mauvais. Alors, les Néo-Zélandais aussi, etc. Alors, les Français, on est médiocre. Hein. On est médiocre, on a beaucoup de progrès à faire. Hein. Vous voyez, on est 45 litres, c'est vraiment... on est médiocre. Hein. Mais donc, vous retenez quand même qu'un bon consommateur de bière, il est aux alentours de 150 litres par an. Alors, en France, voilà ce qu'on a à peu près. Hein. Donc, on a perdu depuis très longtemps notre médaille d'or de l'alcoolisme hein, au niveau vin. Hein. Il y a 20 ans, on était aux alentours de 100 litres. Maintenant, on est à 70 litres. Hein. La bière, on est aussi très mauvais. Par contre, on est médaille d'argent d'une consommation hein, qui est la consommation d'eau embouteillée ou d'eau minérale. La médaille d'or, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est l'Italie. Bon, je crois que la pub y est pour quelque chose, ou je ne sais pas, l'eau de Javel italienne, etc. Bon, donc on retient quand même que nous sommes pas de grands consommateurs de bière, et le niveau au niveau marché est relativement stable. On a tendance à avoir plutôt des bières de bonne qualité, des bières apéritives, plutôt que les bières boissons. Alors... Bien évidemment, quand je parle de bière, je pense toujours à mes fabrications autochtones, hein, notamment les Dolo, qui est pour moi le nom générique. Alors on va retrouver aussi, en fonction de la matière première, en fonction du travail des dolotières, donc les brasseuses africaines ou autres, hein, toute une série de produits. Hein. Alors, dans le monde entier, il y a production. Donc, et personnellement... je pourrais vous raconter la fabrication de la cachiri en Guyane, par exemple. Hein. Alors, c'est relativement simple. Si on admet que la bière, au départ, c'est de l'amidon qui va, après transformation, donner des sucres. Et ces sucres vont être fermentés par des micro-organismes, de la levure pour donner, bien sûr, un peu d'alcool et du CO2. Donc, vous allez comprendre tout de suite le cachiri. Le cachiri, c'est en Guyane. Hein. Donc, vous prenez des grand-mères guyanaises. Vous leur faites manger du manioc. Donc, assez longuement, hein, bien sûr, parce que c'est assez costaud. Le manioc, c'est une racine tropicale, des grosses patates. Et après, vous faites cracher toute la grand-mère dans un canari, donc en un récipient. Et le lendemain, vous obtenez du cachiri, donc boisson alcoolisée, qui est pour moi une bière. Alors, vous allez faire l'expérience suivante. Hein. Comme il n'y a pas de manioc, vous allez prendre du pain. Vous allez mâcher longuement du pain et vous aurez après une sensation de sucré. L'amidon du pain, sous l'effet de l'amylase salivaire, de votre salive, sera transformé en sucre qui va porter le nom de maltose, si vous voulez, et vous aurez une légère... sensation de sucré. Donc, vous pouvez éventuellement crocher dans un canari et goûter votre cachiri rondio le lendemain. Vous m'en parlerez. Hein. Mais ça, hein. Donc, c'est une version guyanaise, etc. Alors, problème posé, qui a inventé la bière ? Alors là, personne n'en sait rien. Alors, on raconte différentes histoires. Sachant qu'en tant qu'Européen, on raconte ce que mon grand-père m'a raconté, etc. Alors, il y a une théorie de mon copain Dubois du Nord, qui est la bière des petits oiseaux. Donc ça, c'est sympa. Vous avez des grains. Hein. Les grains se trouvent sur une pierre dans un petit trou. Il se trouve que ça pleut. Après, il y a le soleil qui sèche tout ça. Après, il y a à nouveau de l'eau. Le petit oiseau vient boire et il chante magnifiquement. Alors, Ça, on peut l'expliquer. Alors évidemment, les profs comme moi qui ont mis 40 ans à mentir, on raconte tout ça très solennellement. À savoir, il y a eu germination du grain. Le grain, pour germer, est obligé d'avoir recours à toute une série de réactions enzymatiques. Et ces enzymes vont transformer l'amidon du grain en sucre fermenté cible. Et il suffit par la suite que l'air vous apporte des levures sympathiques pour que la levure consomme ces sucres fermentés cibles et donne un peu d'alcool. Bon, ça, c'est la bière des petits oiseaux. Alors, j'ai un copain, alors lui, il est chinois, qui m'a raconté une histoire un peu bizarre. Donc là aussi, l'histoire du bol de riz chinois qui est oublié par le paysan. Il y a de la pluie, etc. Il revient quelques jours plus tard et le paysan travaille deux fois plus. Alors, les Chinois, ils sont formidables, c'est que pour étayer après leur théorie, ils ont recours à une archéologie chinoise. Alors, le brave professeur Baogui... Hein, ah oui, non, mais... Ça crachote, je crachote. Je vous prie de m'excuser, je crachote. Pour mieux crachoter, je vais crachoter. Donc, mon copain Baogui, qui parle merveilleusement bien le français, heureusement, m'a expliqué que les Chinois ont trouvé les fossiles d'un anthropoïde sou. Alors, est-ce qu'il avait bu du vin ou de la bière? On ne va pas chinoiser, hein. C'est ce qu'il m'a dit, je vous le rappelle. Donc, il y a en définitive très peu de recherches concernant ça. Par contre, il y a ce qu'on raconte le plus couramment. Le plus couramment, voilà ce qu'on raconte. À savoir, alors, au néolithique, donc à peu près il y a 8000 ans, il y a quand même une grande transition entre la population qui est nomade et la population qui va se sédentariser. Donc, globalement, c'est l'apparition de l'agriculture. Donc, à ce moment-là, on peut avoir des stocks de céréales et on peut éventuellement avoir fabrication de bière. Donc, les premières preuves archéologiques sont des preuves évidemment concrètes, à savoir des sculptures ou des choses comme ça. Bien évidemment, on critique un petit peu cette approche-là parce qu'on peut penser qu'une tradition orale pourrait refléter la fabrication de la bière. Donc il y a des chants en Laponie ou en Afrique qui évoquent des boissons merveilleuses où on était plus proche des dieux, etc. Donc évidemment, à partir du moment où on doit se référer à une écriture, il faut que l'écriture soit inventée ou que des représentations existent. Donc globalement, l'histoire que les profs racontent, c'est apparition de la bière au moment de l'apparition de l'agriculture. Alors, il y a des études qui pourraient être faites, c'est pour... j'allais dire, métaboliser l'alcool, il faut un équipement enzymatique. Quand est-ce que l'homme s'est vu pourvu génétiquement d'alcool déshydrogénase pour digérer l'alcool? Alors qu'avant, pendant des millénaires, quand il était nomade, il pouvait trouver de l'eau, j'allais dire, hygiénique. Une fois qu'il est sédentaire, l'eau pure, on va dire, c'est peut-être pas si facile que ça à trouver. Bon, bref. On n'est pas prêt de le savoir. Alors, les traces archéologiques, en fin de compte, on a peu de données techniques. La technique, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Et les seuls documents où on évoque le mot bière, c'est souvent dans des documents plutôt commerciaux, de vente de terrain ou autres, qui sont célébrés par des actes, on va dire, notariés, mais accompagnés, j'allais dire, de services de bière pour sceller le marché. Bon, donc on va retrouver dans la civilisation sumérienne des documents authentiques qui parlent de bière. Alors, il est évident qu'on va avoir des tablettes d'argile avec même des répartitions dans les champs, etc. Donc tout ça est relativement bien connu. Donc les Français, on répète ce qu'on a appris à l'école, on commençait par Babylone, alors après on allait en Égypte, et là, beaucoup d'iconographie. Donc, il est évident que la bière était omniprésente en Égypte à tous les niveaux sociaux que ça puisse être. Hein. Donc, il y avait la bière des dieux, la bière des ouvriers, etc., etc., avec aussi les recettes bien connues, bien décrites, etc. Hein. Donc, une bière, à base de céréales, donc des ancêtres de nos blés, fabriqués par nos amis, pour les Égyptiens. Hein. Donc là, ce sont des recettes. Il y a eu, les Anglais ont beaucoup travaillé sur ces recherches archéologiques. Donc c'était les femmes aussi qui faisaient traditionnellement la bière avec donc des techniques bien connues. Alors, il faut faire attention dans la mesure où ces bières égyptiennes, ce n'était pas notre Kronenbourg. Hein. C'était plutôt des bouillies fermentées que l'on servait dans des dispositifs munis de filtres. Hein. Donc, il faut bien avoir à l'idée que là, on est proche des dolos, si vous voulez. Donc, boissons fermentées contenant de l'alcool à partir de céréales. Et bien évidemment, il y avait filtration. Donc, ce qui explique ces représentations-là, où on voit qu'on déguste le produit à partir d'une paille qui avait le mérite de filtrer notre produit, sachant qu'on n'est pas loin de pratiques actuelles hein, où on va boire à partir de filtres. Donc je vous signale, par exemple, au Tibet, ils ont une bière, ou au Népal, une bière actuelle que vous pouvez acheter dans les bistrots avec aussi des dispositifs de filtration, leur bière étant produite à partir de millet. Donc voilà en ce qui concerne l'histoire de la bière. Donc on n'en sait rien. On raconte, nous, en tant qu'Européens, ce qu'on a appris à l'école, mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé au fin fond de l'Amérique, par exemple, ou au fin fond de la Laponie ou de l'Asie. Hein. Alors, une question, la bière, est-ce que c'est de l'alchimie, de la chimie ou de l'art? Sachant que, malheureusement, dans notre monde actuel, on accuse toujours l'industrie alimentaire d'être des chimistes dévoyés, de bidouiller tout ça. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Bon, l'alchimie, évidemment, ça vous évoque des signes un peu bizarroïdes, et on a toujours des grands poncifs dans la tête qui ne sont pas nécessairement exacts. Parce que, si vous voulez, il y a deux aspects à l'alchimie. Hein. Donc, un aspect spirituel, hein, donc on pourrait peut-être évoquer justement les moines bouddhistes ou les lamas du côté de Lhasa au Tibet, donc l'histoire spirituelle, j'ai parlé de l'homme régénéré immortel, donc vaste projet, hein. Et puis l'idéal de perfection symbolisé par la transmutation du métal en or, etc. Donc au-delà de l'aspect purement, j'allais dire, qu'on a retenu tous, l'aspect un peu mercantile, etc., il y avait un aspect quand même élévation de la spiritualité, etc. Donc, il est bien évident que dans la recherche, je dirais, matérielle, les alchimistes ont manipulé hein, et donc peuvent être considérés comme, j'allais dire, les premiers apprentis chimistes, si vous voulez, hein, donc au travers des aspects pratiques. Et on va retrouver dans des écrits alchimistes des recettes de fabrication d'une boisson que moi j'appelle bière, puisque au départ c'est une céréale qui va subir des transformations, et donc ça fait même l'objet d'écrits alchimistes. Alors évidemment, ce sont des spécialistes qui sont capables de traduire tous ces symboles, etc. C'est pas simple, mais donc il y a quand même une approche là. Alors, cette approche là, vous la retrouvez encore de tous nos jours, puisque là, je vous présente la croix du brasseur, donc, que l'on voit ici. Alors, cette croix du brasseur, en fin de compte, a suscité pas mal d'intérêt. On a voulu comprendre à quoi ça correspondait. Et en définitive, on retrouve les quatre éléments d'Aristote, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et par imbrication de ces différents éléments, on va pouvoir retrouver le symbole de la fabrication de la bière. Alors, évidemment, pour nous, au XXIe siècle, ça nous semble un petit peu tiré par les cheveux, mais il y a quand même beaucoup de vérité. Donc, lorsqu'on va combiner l'eau et l'air, si on donne à un grain d'orge de l'eau et de l'oxygène, vous savez que ce grain va germer. Donc, on va avoir la germination qui, en fin de compte, est la première étape de la transformation d'orge en malt d'orge, donc grain qui a germé, qui par la suite a été séché. Ensuite, ce grain de malt, Lorsqu'on va le broyer, le mettre dans l'eau et qu'on va faire une recette de cuisine à l'aide de chaleur, on va avoir l'étape de saccharification. Le mot saccharification est impropre, mais ça veut dire transformation de l'amidon, justement, en sucre fermentescible. Et après, lorsque ces sucres fermentescibles, par les hasards de l'air et des microbes véhiculés par l'air, vont rencontrer des levures, vous savez très bien qu'on va avoir fermentation. Donc, dégagement de gaz carbonique, donc de gaz, et dégagement de chaleur. Un milieu qui fermente, vous savez que ça bouillonne, etc. Donc, cette fameuse croix du brasseur est utilisée et comme symbole des premières explications qui se voudraient de compréhension de la fabrication de la bière. Donc, une interprétation de type amulette porte-bonheur pour que votre recette de cuisine fonctionne bien, et une recette de chimie, on va dire, etc. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce que cette croix du brasseur, on la retrouve très fréquemment. Donc, le meilleur symbole, c'est Stella Artois, Stella étoile. Donc, dans de nombreuses brasseries, vous allez retrouver quelque part une croix venue, on va dire, du fond des âges, hein, au moins du Moyen-Âge. Hein. Alors, de la cervoise à la bière. Donc, il est évident que là, on va avoir des mutations. Bon. Donc, il est bien évident que Astérix buvait de la cervoise, ce qui lui donnait beaucoup de force. Je vous rappelle que l'étymologie de cervoise vient de Cérès, la déesse des moissons, hein, pas des boissons, des moissons, donc céréales, et vis, la force. Et donc, on rejoint toujours quelque chose qui est très connu, à savoir la bière, aliment liquide, hein, pain liquide, hein. Bon, les proverbes alsaciens le disent très bien. Alors, le problème, c'est que cette cervoise tiède d'Astérix, ça ne devait pas être très fameux. Donc, c'était un jus sucré, bon, qui avait de l'alcool, donc ça fait du bien, mais qui ne devait pas avoir un grand bon goût. Donc, on s'est amusé à rajouter des épices dans cette boisson fadasse pour relever le goût. Donc là, dans la littérature, on retrouve du genévrier, de la sauge, du romarin, pour relever le goût. Et en définitive, la cervoise a fait l'objet donc de tout un développement au Moyen-Âge, hein, mais avec évidemment de la législation, bien évidemment, mais le mot bière est apparu relativement tardivement, donc là en 1435, tout simplement parce que l'aromate qui a été utilisé a été le houblon. Alors, le houblon était connu, mais Saint-Hildegarde, donc de Bingen, à partir du XIIe siècle, a contribué à répandre de plus en plus le houblon, qui avait donc des vertus au niveau gustatif important, mais aussi des vertus vis-à-vis de la protection de la bière vis-à-vis des ce qu'on appelle des infections, hein, pour pas qu'elle devienne vinaigre, si vous voulez. Hein. Bon, donc, si vous voulez, ce houblon est la matière que l'on utilise maintenant systématiquement pour nos bières, on va dire, industrielles. Hein. Mais en ce qui concerne les dolos autochtones, très fréquemment, ils vont rajouter des plantes de leur région, hein, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Asie, etc. Alors, le houblon, on peut en parler rapidement. Hein, donc, c'est d'une famille des cannabisacées, le cannabis. Alors, des Suisses ont fait de la bière au cannabis en garantissant que le taux qui était répréhensible était inférieur, etc. Donc, vous en trouvez dans vos campagnes. Je vous en ai apporté là de ma production locale. Vous pourrez voir ces cônes de houblon. Alors, dans la littérature, on parle de fleurs de houblon. Les botanistes évoquent tout un ensemble de folioles, hein, des petites feuilles. Et ce qui est important dans le houblon, c'est des résines qui sont particulièrement amères. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour faire un hectolitre de bière, donc 100 litres de bière, on va dire qu'il faut 30 kilos de grains. Mais il faut seulement 300 grammes de cônes séchés de houblon. Donc vous voyez la proportion entre 30 et 300 grammes. Hein. Donc c'est vraiment les aromates qu'on va utiliser systématiquement. Et dès lors que le houblon a été systématiquement utilisé pour fabriquer leur boisson, le mot bière est apparu au détriment de la cervoise. Alors, bière, chimie. Alors, donc, évidemment, c'est une question qui est souvent posée. Alors, en ce qui concerne la chimie, donc, faut savoir que l'industrie brassicole, tout au Moyen-Âge et au-delà, était tout à fait importante. Donc, il y a des écrits, et évidemment, les premiers écrits qu'on connaît bien, c'est tout ce qui est encyclopédie Diderot d'Alembert. C'est pas encore de la chimie, mais c'est très descriptif, avec des planches merveilleuses. Donc, pour les lycéens français, la chimie, c'est Lavoisier, hein. Bon, 1789, puisque comme il était fonctionnaire, on lui a coupé la tête, puisqu'il était fonctionnaire de la royauté, donc c'est pas grave. Donc, hein. Alors, sachez qu'il n'y a pas de chimie dans la bière. On n'est pas plus vertueux que les autres, mais ça coûterait trop cher. Donc voilà la bonne raison. Hein. Mais c'est... Alors, si la cuisine, c'est de la chimie, la bière, c'est de la... Alors, donc voilà comment on fabrique la bière. Alors, on a plusieurs échelles. Donc là, on est en train de mélanger le grain de malt avec de l'eau et on va faire une recette de brassage, qu'une recette de cuisine. Hein. Donc ça, c'est à l'échelle de 30 litres. Hein. Ça, c'est pour faire dans vos salles de bain. Hein. Je vous donnerai les plans. Hein. Faites attention, il faut nettoyer scrupuleusement la salle de bain, sinon on a plutôt du vinaigre. Hein. Alors après, on a les brasseries traditionnelles, donc la brasserie de mon enfance au Havre, avec les chaudières de cuivre rutilantes. Et maintenant, on a des brasseries en inox pour des questions de coût. Hein. Bon, donc, il n'y a pas de chimie dans notre produit. Hein. Voilà aussi... Donc, brassage du Dolo avec nos chaudières ici, donc pour brasser. Alors, il est évident, quand on parle de bière, on ressort le grand scientifique français, Pasteur. Alors, ce qui est amusant dans Pasteur, c'est que Pasteur a publié un bouquin, études sur la bière, a déposé son brevet sur la pasteurisation. Alors, il avait étudié auparavant le vin, le vinaigre, et en définitive, il a travaillé sur la bière parce que en 1870, les Prussiens nous ont mis une volée, hein, la guerre de 1870, et dans la préface, Pasteur a dit « Je veux montrer à ces affreux Prussiens que nous, les petits Français, on n'est pas plus bêtes qu'eux, et sur un sujet que les Prussiens croient dominer, on peut apporter une contribution significative. » Donc, et la bière pasteurisée était baptisée tout simplement la bière de la revanche. Donc, vous voyez, Pasteur, et voilà. Alors, donc, dépôt du brevet, hein, donc le mot pasteurisation est maintenant évidemment international. Alors, ce qui est important, c'est que on va pouvoir, à la suite de Pasteur, différencier différents produits. Hein. Donc, lorsque vous utilisez un levain, au sens du mot levain du boulanger, vous allez avoir un mélange considérable de micro-organismes de type levure. Et donc, toutes les bières autochtones, qui s'appellent chicha, dolo, saké ou autres, c'est à partir de levain. Pasteur, grâce à ses bons élèves, on verra, a inventé la notion de levure de culture pure. Donc, au laboratoire, à l'aide de manipulations simples, on va pouvoir isoler une levure et la faire se multiplier. Donc, ça veut dire que maintenant, les brasseurs industriels vont acheter une levure à une levurothèque, levure qui est dûment bien connue avec ses spécificités, notamment en ce qui concerne ses aptitudes technologiques. Donc, ça, c'est le grand apport de Pasteur avec la pasteurisation. Alors, après, on peut avoir des fermentations spontanées, à savoir, on laisse notre moût de brasserie à l'air libre, les microbes de l'air environnant vont ensemencer ce moût pour donner, alors, si vous le faites ici ou si je le fais à Montpellier, j'aurai du vinaigre, mais il se trouve qu'à dans les environs de Bruxelles, il y a une fleur écologique très spéciales, qui vont vous donner ces fameuses bières belges, on va dire cric, lambic, un peu acidulées, très spéciales, de levure spontanée. Alors, quels sont les bons élèves de Pasteur? Donc, les bons élèves de Pasteur, alors ça, évidemment, pour mes étudiants, je leur disais, vous voyez, s'ils sont bons élèves, ils vont après faire fortune. C'était le cas de Jacobsen et de Hansen. Alors, Jacobsen a acheté une brasserie sur un petit mont à côté de Copenhague, Berg. Il a eu un fils, Karl, qu'il a baptisé Carlsberg. Donc, le patron de Carlsberg était un bon élève de Pasteur. Donc, vous voyez qu'il faut être gentil à l'école et écouter les profs. Hein. Donc, voilà la grande différence. Alors, ce qui est amusant dans le bouquin de Pasteur, c'est qu'on a des planches qui sont carrément des comptes rendus de travaux dirigés qu'on peut faire avec un microscope, etc. Hein. Alors, ça, c'est une levure au microscope électronique à balayage où la levure, elle bourgeonne, donc elle donne une cellule fille, etc. Bon, donc, voilà. Alors, là, on va faire un petit tour du monde, hein, pour essayer de vous montrer les diversités. Alors, bien évidemment, on compte à peu près 30 000 brasseries industrielles dans le monde. Hein. Et celle-là, elle paye des impôts. Et toutes les fabrications familiales ou autochtones échappent pour la plupart au truc. Alors, bon, des grands collectionneurs s'amusent évidemment à... Alors, comment on va les classer? Bon, les plus simples, c'est la couleur. Hein. Alors, bière blanche, faites attention, donc, parce qu'on va utiliser parfois des gros mots d'origine allemande. Vous avez Weiss, qui veut dire blanc, hein, mais on a Weizen, qui veut dire froment. Les bières blanches sont généralement fabriquées avec, non pas de l'orge, mais du froment, avec du blé. Hein. Bon, alors après... vous les connaissez. Alors, les bières vertes, c'est de la rigolade. C'est au même titre qu'un fruit est vert. C'est une bière en cours de maturation. Hein. Bon. Alors, après, bien évidemment, on a les fermentations, on va dire, britanniques, avec les fameuses L qui se déclinent aussi sur l'ensemble des couleurs. Hein. Alors, je vous signale un mot que vous connaissez peut-être, c'est Porter, qui était une bière de grande densité, qui était une bière brune, bien sûr, de grande densité, donc très énergétiquement, très énergique, enfin contenant beaucoup de calories, si vous voulez, qui était destinée au départ au docker du port de Londres. Hein. Alors, Pilsen, on retrouve évidemment toute la déclinaison des bières occidentales basée sur la ville de Tchéquie. Alors, bière Pilsen, donc blonde, fortement houblonné, tout simplement parce que l'eau, qui est un facteur déterminant de la fabrication de la bière à Pilsen, est une eau relativement douce qui s'accommode bien avec un fort houblonnage. Et on va retrouver des noms exotiques aussi, Pilsen, Pilsener, Lager, etc. Hein? Bon, alors, on va évidemment retrouver ces bières on va dire international sur l'ensemble du globe, sachant que maintenant, vous savez, ce sont des brasseurs d'affaires et on va retrouver une Heineken tout à fait identique à Kuala Lumpur en Malaisie, à Buenos Aires ou à Marseille. Bon, et il est évident que la bière Heineken qui est bu à Montpellier n'est pas fabriquée en Hollande, mais elle est fabriquée tout simplement à l'usine de Marseille. Hein. Alors, évidemment, on va retrouver une déclaration certainement apocryphe de nos amis belges hein, qui prétendent que dans la guerre des Gaules, César disait que c'était la meilleure bière en Belgique. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, ça doit être une histoire belge. Hein. Mais on va retrouver ces fameuses bières totalement originales, hein, avec des noms aussi, Faro, Gueuse, Lambic, Creek. Donc, c'est ces fameuses bières Creek, ça veut dire cerise en flamand, hein, Creek, Lambic. Donc, des bières vraiment, on va dire, hors normes. Alors, on a, et vous avez eu aussi un éminent collègue from Belgium qui vous a parlé des bières d'abbaye. Alors, faites attention. Faites attention parce que là, il y a tout et rien. Il y a que 6 bières trappistes. Hein, donc, qui font l'objet d'une appellation, on va dire, contrôlée, rigoureuse, déposée, etc. Alors, les moines ne sont pas fous. Hein, en fin de compte, ils surveillent. et ils font travailler quand même quelques laïcs. Hein. Mais c'est des bières trappistes que vous connaissez, hein, Chimay, Orval, sont les plus connues. En ce qui concerne les bières d'abbaye, alors là, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Il suffit qu'un groupe, on va dire Scottish et Newcastle, trouve que à l'abbaye du Jouir, il y a 400 ans, on faisait une bière, et on va faire une bière de l'abbaye du Jouir sans problème, en se référençant à un Saint Léonard totalement hypothétique, etc. Donc c'est une histoire de marketing. Hein. Il suffit de trouver quelque part une abbaye où et puis de trouver des textes certainement bidouillés, etc. Alors moi, j'aime bien la brasserie du Pont chez les Belges. Hein. Lui, il fait la bière des Moinettes. Hein. C'est sympa. Hein. Bon, donc, ce qu'il faut retenir, c'est il y a les trappistes et les autres qui font du business. Hein. Alors là, les saints, les moines, il y a tout ce qu'on veut. Hein, un duo d'enfer, la bière maudite, la bière de l'eau bénite, l'Angélus. Enfin, là, le bon Dieu reconnaîtra les siens, hein, etc. Alors, quelque chose qui me intéressant, c'est les bières événementielles. Donc, le jour où Nancy marque quelques buts supplémentaires, ma femme est de Nancy, hein, un souvenir d'études qui se prolonge. Hein. Quand on était bon élève à l'école de brasserie de Nancy, on avait le droit de choisir la femme qu'on voulait. Donc, elle peut confirmer que j'étais bon élève. Hein, voilà, très bien. Bon, donc, bière événementielle, donc, et évidemment, on peut évoquer la bière de Mars. Alors, la bière de Mars répond quand même à des critères objectifs. Alors, pour plaisanter, je dis que ce sont les brasseurs, parce qu'évidemment, je suis un peu partisan, qui ont inventé le Beaujolais nouveau. Tout simplement, donc, notez, Monsieur Briard, hein, les brasseurs ont inventé le Beaujolais nouveau. Hein, à savoir, la bière de Mars, c'est la bière qui est fabriquée avec les productions les plus nouvelles. Hein. L'orge a été récoltée, on va dire, en août. Il faut attendre avant de le transformer en malt. Ensuite, il faut encore attendre avant de le transformer en mou de brasserie. Et donc, on va brasser aux alentours du mois de décembre. Et ensuite, on va bénéficier des mois d'hiver pour assurer une fermentation lente et une bonne maturation. Et donc, la bière de Mars correspond à la bière fabriquée avec la production la plus récente, aussi bien d'orge et de houblon. D'ailleurs, avant l'invention du froid artificiel, il était interdit les mois d'été de brasser. Parce qu'à ce moment-là, on ne maîtrisait pas suffisamment la température. Et il y a toute une série de procès qui ont été répertoriés, à savoir les brasseurs allaient prendre sur les étangs la glace pour les conserver dans des glacières pour avoir une source de frigorie. Et il a fallu attendre la fin du 19e siècle, le froid artificiel, pour modifier tout ça. Hein. Alors, maintenant, je parle des bières ethniques. Alors là, c'est un clin d'œil à mes collègues bretons qui, il y a plus de 20 ans, ont lancé des bières bretonnes en disant « Je suis breton, je fais une bière bretonne et je vous emmerde. Enfin, je vous invite à boire. Hein. » Voilà. Hein, donc, on a eu un développement comme ça de référence en disant « je suis dans telle région », etc. Alors, bon, j'ai toujours... donc là, on va voir, vous voyez, on affiche le mot Nord en grand. Les Réunionnais affichent aussi « je suis Réunionnais et je vous fais la dodo, les là ». Bon, alors, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il y a deux brasseries à l'île de la Réunion, le groupe Bourbon et l'autre, mais toutes les deux sont contrôlées par des capitaux Heineken. Mais bon, ça, les Réunionnais, elles ne savent pas, leur dites pas, vous buvez de la dodo, les là. Donc là, c'est le côté internationalisation des capitaux. Hein. Alors, les bières ethniques. Alors, il y a une bière qui est bien connue et qui est évidemment un terrain difficile, c'est la bière Pietra. Alors, la bière Pietra, chez les Corses, c'est une bière fabriquée avec de la châtaigne. La châtaigne est... Hein ? Ouais, ouais, non, mais bon, ça, c'est un mort. Hein. Donc, c'est fabriqué avec de la châtaigne. La châtaigne étant la source d'amidon. Hein. Donc, on ne fait pas manger la châtaigne à une corge qui crache. Non, ce n'est pas ça. Hein. Donc, ils ont mis au point une bière à partir de châtaignes utilisées comme matière première amylacée d'amidon. Alors, et c'est une bière qui marche bien. La corsitude se vend bien. Hein. Alors, un des problèmes, c'est que il y a eu quelques soucis. Parce que Pietra a bien marché. Et donc, on a d'autres Corses qui ont fait une bière, et j'ai baptisé ça les châtaignes de la colère, aromatisées à la châtaigne. Donc ça, c'est totalement différent. Vous, et là, Maître Canter, évidemment, a trouvé que c'était un créneau. Donc, quand on lit bien, on voit arôme châtaigne. Donc ça n'a absolument rien à voir entre la châtaigne utilisée comme grain cru, comme amidon, et puis l'arôme châtaigne, dont on ne sait pas toujours très bien comment il est obtenu. Hein. Bon, moi, je crois savoir, mais j'en suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment de la châtaigne-châtaigne. Hein. Alors, on va retrouver donc ces bières aromatisées à tout et n'importe quoi. Hein. Alors, la Desesperados, les jeunes sont très férus de tout ça. Bon, mais ce sont des bières aromatisées liées à une législation qui date que de 92. Hein. Alors, il y a même des sabotages, à savoir mettre du Genépi ou du cognac dans la bière. Quand on sait que le Genépi, il faut monter à 2008 pour aller le chercher dans les Alpes. Donc, là aussi, bon, vous pouvez aimer. Hein. Alors, là aussi, grande discussion entre les authentiques puristes qui bricolent en disant « ça, c'est pas de la bière, ça, c'est de la bière ». Moi, je ne veux pas trop m'en mêler de tout ça. Je vous le signale. Faites attention à ces bières aromatisées parce que vous pouvez rencontrer quelque chose qui est fabuleux. C'est au Cameroun où vous avez une bière. Alors là, évidemment, vous pouvez me faire confiance. C'est bière à l'arôme d'abbaye. Donc ça, vraiment, nos Africains sont absolument géniaux. Hein. Donc, moi qui suis en odeur de sainteté, je peux vous dire que cette bière à arôme d'abbaye est fabuleuse. Hein. Alors, les Africains ont évidemment une imagination formidable. Donc, il est évident qu'il y a quelques problèmes économiques en Côte d'Ivoire. Alors, l'habitude, c'était que la bière était dans des bouteilles de 66 centilitres. Bon, problème d'économie, etc. Et évidemment, le gouvernement ne veut pas bouger le prix de la bière. Sinon, c'est très compliqué. Donc, le gouvernement évoque toujours la conjoncture économique. Ça va nous resservir dans quelques mois, hein, je vous le signale. Hein. Alors, donc là, en Côte d'Ivoire, ils n'ont évidemment pas modifié le prix de la bière, mais c'est le même prix, mais maintenant, la bouteille, elle fait 50 centilitres. Et l'Ivoirien, quand il veut une bière, il va au bistrot, il fait « Monsieur Briard, donnez-moi une conjoncture ». Et voilà. Donc, voilà. Hein. Donc, la bière à l'arôme d'abbaye, hein, bravo, etc. Alors, bière biologique, oui, bon, c'est la mode, hein, on peut trouver tout ça. Alors, quelque chose, évidemment, qui est très important. Donc, là, il est évident que on ne peut pas lire, mais vous percevez... Non, non, c'est l'image qu'il faut conserver. Donc, tout ça, c'est des brasseries. Et en fin de compte, à la fin, on va retrouver ici le groupe Heineken. Donc ça veut dire que toutes ces brasseries-là, au cours, on va dire, des 30 dernières années, se sont retrouvées absorbées, fermées, etc. Donc ce qui intéresse les grands groupes brassicoles, c'est en fin de compte le marché, etc., et une grande centralisation. Alors, donc ça, c'est le côté mondialisation de la bière Pils, classique, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France... 80% de notre marché est pris par Heineken et l'autre marché, c'est Kronenbourg. Mais moins de bol, Kronenbourg, c'est pas Kronenbourg, c'est Scottish and Newcastle Brewery Limited. Donc, si vous voulez, les capitaux financiers sont dans les mains d'autres. Alors, en réaction contre ces concentrations industrielles, émergence des bières, je dirais, régionales, donc les Bretons, les etc., etc., mais aussi floraison de microbrasseries, c'est-à-dire un artisan a le courage de créer sa propre bière. Alors je sais qu'à Théâtre Éprouvette, l'artisan de l'environ va venir travailler avec vous. Donc, floraison d'artisanat brassicole. Alors, le problème, évidemment, c'est comment lutter contre les grandes puissances financières. Lorsqu'on sait qu'une machine pour coller des étiquettes marche à 50 000 bouteilleurs et que l'artisan, il les colle... pas tout à fait, mais un peu comme ça. Donc, actuellement, il y a 250 artisans qui essayent de vivre de leur, on va dire, de leur passion. Alors, ce qui est important, c'est que mes amis de Nancy, à Saint-Nicolas-de-Port, donc, organisent chaque année, maintenant on doit être à la 12e année, des salons des brasseurs artisans ou amateurs, et donc essayent de les réunir et de faire des classements avec des prix, etc. Alors, voilà, par exemple, ce qu'on fait avec mon copain à Montpellier, donc, dans une piccolo-brasserie. Donc, on fabrique 30 litres de bière pour mettre au point des recettes ou pour s'amuser, tout simplement. Alors, autrefois, dans le Nord, hein, il y avait la bière en kit. Donc, ça, c'est une image de 1955-1960. Maintenant, sachez que à l'image des Anglais, on peut très bien acheter des boîtes de conserve contenant des moûts de brasserie et que l'on va diluer dans l'eau pour faire fermenter, pour obtenir des bières qu'on appelle bières en kit. Donc c'est totalement disponible sur le marché français. Il y a maintenant des fournisseurs. Donc ceux qui veulent s'amuser à fabriquer de la bière peuvent le faire à moindre équipement. Sinon, il faut évidemment des chaudrons et il faut acheter du malt d'orge, etc. Hein. Bon, alors, ça, c'est toute la bière en kit. Donc, ça, c'est bière de la nourrice. Donc, c'est la meilleure bière que j'ai jamais bu. C'est la bière que j'ai fabriquée pour la naissance de ma petite fille, en souvenir de mon grand-père, qui était ouvrier brasseur, vous devez le savoir, et qui s'appelait le Père Lagalette. Alors, on va maintenant s'amuser à faire un tour du monde pour vous montrer la diversité. Si vous admettez que le mot bière correspond à un liquide alcoolisé à partir de céréales, ou d'amidon d'une façon générale, on va trouver dans le cadre du monde entier des bières exotiques à partir de matériaux très divers. Alors ça peut être des céréales, donc de type riz, maïs, sorgho, ça peut être des racines tubercules, manioc, igname, on peut faire des bières de bananes ou malheureusement des bières à partir de pommes de terre comme les Belges ont fait pendant la guerre, etc. Hein? Alors, bon, ça, c'est l'exotisme. Bon, ça, c'est péruvien. Donc, vous voyez, ça n'a pas beaucoup de qualité. Alors, on va retrouver, notamment en Afrique, donc les bières classiques fabriquées, évidemment, sous licence, avec des outils et des ingénieurs, souvent européens, bon, maintenant de plus en plus locaux, mais qui sont totalement comparables à nos bières ici. Hein. Bon, donc là, on peut s'amuser à regarder les étiquettes. Hein. Donc, grande diversité, grands groupes industriels qui, évidemment, font du business. Par contre, on va retrouver, et là, je vous ai préparé un petit diaporama concernant les bières à partir de sorgho. Hein. Bon, donc, on va retrouver les différentes étapes de fabrication de la bière. Donc, première étape, maltage du sorgho. Hein. Ensuite, on va donc évidemment sécher ce malt au soleil, obtenir un sorgho. Alors là, tout ça, ce sont mes étudiants africains qui m'ont donné toutes ces plantes-là. On va moudre le grain. Hein. Donc ensuite, on va faire l'opération de brassage, donc mouture du grain haut avec à la main, on remue tout ça et on chauffe hein, pour qu'il y ait les réactions enzymatiques qui transforment l'amidon en sucre fermenté cible. On va avoir des filtrations, des refroidissements du moût, et le lendemain matin, bon, ça, c'est une salle de brassage. Hein, et après, on a, évidemment, la livraison de notre de l'eau. Bon, alors là, on a, évidemment, peu d'indications purement techniques. Hein. À Montpellier, on a essayé de mieux comprendre. Le problème qui était posé est relativement simple. Désertification du Sahel, et on sait qu'à Ouagadougou, 50% du bois de feu est consommé pour fabriquer du de l'eau. D'où l'idée de dire, vous êtes prof de brasserie, Est-ce que vous ne pouvez pas regarder un peu mieux cette fabrication de l'eau pour faire des économies d'énergie? Et en fin de compte, on s'est rendu compte que les dolotières, par empirisme, par, j'allais dire, par attention, ont totalement optimisé le rendement matière conversion du grain en bière. Et les seuls progrès qui ont été réalisés, ça a été uniquement sur des dessins de fours pour économiser les pertes, etc. Sachant qu'il y a un phénomène rédhibitoire, c'est que les dolotières contrôlent la chauffe tout simplement en visualisant les flammes, en tirant le bois. Donc on peut difficilement faire des économies traditionnelles. Par contre, il y a de la part de certains fournisseurs volonté de passer à des marmites en aluminium et d'avoir des combustibles de type gaz. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, donc là, on a une forte... Alors, vous êtes convaincu que la bière, c'est un art. Bon, alors, on retrouve la croix des brasseurs, bien sûr. On retrouve aussi dans les écrits différents hymnes à la bière. Donc là, c'est là-haut en Finlande, Norvège, etc. Donc des chants moyenâgeux qui sélectionnent. Alors, donc, je boucle un peu mon exposé en reprécisant que la bière résulte du travail de l'homme. Hein. Donc, agriculture. Alors, il y a quelque chose qui est important à savoir. Donc ça, c'est du prosélytisme brassicole, mais c'est la vérité. Donc, sachez que dès 1901, il y a eu la création en France de la SECOBRA, la Société d'encouragement à la culture des orges de brasserie. Donc ça veut dire que très tôt, on a su que la matière première était formidablement déterminante sur la qualité finale. Alors après, il y a le boulot du malteur, le boulot du brasseur. Donc, alors, brasseur, c'est le plus beau métier du monde, avec celui de prof de brasserie, bien sûr. Hein. Parce que, si vous voulez, vous avez la maîtrise industrielle, hein. Donc là, c'est classique, froid, chaud, air comprimé. Ensuite, faut être biochimiste pour maîtriser donc tout ce qui est enzymatique, hein, et c'est pas facile. Hein. Et bien évidemment, après, il y a la microbio. Hein. Donc, faut savoir qu'une brasserie, c'est le temple un peu de l'hygiène industrielle. Hein. Bon, donc évidemment, c'est pas à Monsieur Diverset que je vais expliquer qu'il faut nettoyer tout ça formidablement. Hein. Et puis après, bon, j'ai appelé ça artiste designer. Bon, vous avez eu, je pense, un exposé fait par Marzu, hein, sponsorisé par Heineken. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait aux Champs-Élysées au niveau Heineken Culture Bière, alors beaucoup de progrès fait sur tout ce qui est emballage. Hein, donc là, évidemment, on sort, évidemment. Bon, alors, j'insiste pas, si vous voulez, sur ce côté, la bière, donc, résulte du travail de l'homme, hein, avec les facteurs de variabilité de la saveur de la bière liés aux matières premières et au boulot. Hein. Donc, évidemment, et j'oublie pas les microbes artistes du goût. Alors, au sens microbe, on a de la chance, hein, on a plus de bons microbes que de mauvais microbes. Hein. Pensez à tous les fromages, tous les vins, toutes les bières, etc. Donc, toute une série de travaux de microbiologistes qui ont sélectionné des levures avec, évidemment, chacune des spécificités que l'on connaît, qu'on essaye de maîtriser, etc. Alors, in se revisia veritas, donc c'est pour reprendre in vino veritas. Hein. Donc, le slogan des Belges, c'est « Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse ». Il faut savoir aussi qu'actuellement, le syndicat des brasseurs essaye de porter l'accent sur la responsabilité. Donc, une bière se boit avec responsabilité. Bon, vous savez que la loi Evin est peut-être un peu excessive, d'ailleurs. Hein. Alors, en ce qui concerne le vocabulaire, évidemment, par rapport à nos amis onologues ou ceux qui apprécient le vin, notre vocabulaire est beaucoup plus réduit. Hein, on n'a pas encore l'ensemble mais il existe ce qu'on appelle le cercle des flaveurs, avec des mots plus ou moins exotiques. Nos amis québécois parlent de « goût mouflette », hein. Alors, en fin de compte, nous, on traduit ça, c'est un petit écureuil qui sent pas très bon, qui évoque peut-être un peu le putois, je sais pas quoi. Donc, « goût mouflette », pour nous, c'est un goût de carton lié à une surpasteurisation. Hein. Bon, ça, c'est mon copain, hein, bien sûr, alsacien. Alors, je termine sur sortilège de la mousse. Alors, évidemment, on a pas mal de vocabulaire pour décrire la mousse, hein, sur la couleur, la texture, etc. Alors, deux grandes qualités, la stabilité. Hein, est-ce que la mousse met beaucoup de temps à s'affaisser ou pas? Et il y a aussi le collant, qu'on appelle aussi la dentelle, vous voyez. Alors, faites attention, la mousse a deux grands ennemis. Le rouge à lèvres de mesdames, parce que le rouge à lèvres est basé à partir de matières grasses. Hein. Autrefois, c'était du gras de baleine. Donc, lipides et mousse, c'est pas bon. Hein. Donc, gras de baleine ou rouge à lèvres. Demain. Et les lave-vaisselles. Les lave-vaisselles, vous prenez des produits rinçants et à ce moment-là, ça dépose des molécules qui vont faire s'effondrer la mousse. Ensuite, vous allez avoir, chez les praticiens qui sont pas tout à fait compétents, des gens qui, avec des torchons plus ou moins propres, vont essayer d'essuyer les verres. Donc là, il va avoir des microparticules de torchons qui vont générer un dégazage. Hein. Alors, donc, pour servir un verre de mousse, vous demandez à M. Briard de vous faire la démonstration, et vous allez voir qu'il va humidifier toujours son verre avant de le servir, pour éliminer les quelques dépôts, soit de cristaux, si on a lavé le verre avec de l'eau un peu calcaire, comme ça, etc. Donc, il faut toujours bien humidifier le verre, et puis le rouge à lèvres. Voilà. Alors, il m'est arrivé de travailler avec l'école de CBR de physique, chimie et de Paris. Donc, j'ai trouvé un prix Nobel concernant la mousse de la bière. Alors, savoir que contrairement aux profs français, on a des profs américains qui ont plus d'humour et qui attribuent les prix Ig Nobel. Hein. Donc, c'est les prix Ig Nobel. Alors, il se trouve qu'on a eu un prix Nobel avec la mousse de bière, à savoir un chercheur autrichien qui a déterminé la cinétique d'affaissement de la mousse de bière dans un verre qui répond à une loi qui est, en fin de compte, une loi exponentielle inverse, comme la radioactivité. Vous avez des demi-périodes, etc. Bon, donc, il a le prix Nobel, ignoble, certes, mais quand même, c'est pour vous montrer que les chercheurs autrichiens sont quand même des mecs sérieux. Alors, maintenant, de plus en plus, et ça, c'est le groupe Heineken qui, à force de marketing, cherche à promouvoir les accords entre bière et mets, etc. Donc, il y a des moyens de retrouver, etc. Alors, on a aussi un tandem qui est bien connu dans nos milieux. Donc, Hervé Thys, qui est un chimiste que vous avez peut-être vu à la télé, en Colmao, etc. Bon, alors, il fait le clown à la télé, mais c'est mon copain, donc je vais en dire beaucoup de bien. Il est quand même prof au Collège de France. Donc, c'est un copain qui fait le clown, mais qui en a dans le ciboulot. Hein, et puis, qui travaille avec un cuisinier célèbre, qui est Pierre Gagnère, et qui, bien sûr, a dit « La cuisine, mesdames, c'est de l'amour, de l'art et de la technique. » Donc ça, c'est pour rendre hommage aussi à nos cuisinières préférées. Hein. En ce qui concerne la dégustation, bien évidemment, on va trouver tout le monde qui boit de la bière. Donc, tant qu'à faire, surtout quand on est dans un restaurant, il faut mieux payer l'addition, sinon on a des bricoles. Hein. Donc ça, c'est la dégustation. Donc, si pas de crédit. Donc là, c'est toujours la dégustation de la chicha. Donc là, on a une prière à Saint-Arnoux. Hein. Donc ça, je ne sais pas si c'est un vrai saint, un faux saint, etc. Hein. Parce que Saint-Léonard est aussi un saint patron des brasseurs en Autriche. Mais enfin, ça doit être des mentors comme chez vous. Hein. Donc Saint-Arnoux. Hein. Bon, donc là, il est évident que vous avez la sagesse. Hein. Donc je vois rien, j'entends rien. Et je dis rien. Donc ça, c'est dans un pomme en Australie. Alors là, c'est un compatriote à vous. Hein. Donc c'est Mitterrand qui disait « Tant que nous saurons refaire le monde autour d'une bière, c'est que nous oublierons de vieillir. » Donc je vous invite à refaire le monde autour d'une bière.